Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a une jeune femme que je connais depuis des années, que j'aime beaucoup, qui me renvoie régulièrement cette expression quand elle est trop douloureuse, trop en souffrance. Elle me dit, vous ne pouvez pas comprendre. Et quand j'entends ça, je sais que je dois alors demander au Seigneur une grâce intérieure de douceur. De douceur pour pouvoir accueillir autant de douleur et de souffrance. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est une expression qu'on peut utiliser, bien sûr, de diverses manières. Je l'ai retrouvée dans le livre que vient d'écrire un confrère curé à Paris. J'ai sursauté quand j'ai lu ça. Il dit, pour comprendre ce que vient un prêtre, il faut l'être soi-même. Du style, vous ne pouvez pas comprendre. Et puis il ajoute, ce que vit une mère de famille restera toujours un mystère pour un homme. Moi qui me considère toujours comme un peu une mère de famille, la même charge mentale, un curé de paroisse et une mère de famille, c'est à peu près pareil. Mais ce qu'il ajoute est vrai, il dit, la maternité humaine est aussi étrangère à un homme que la réalité sacerdotale à un laïc. Bon, vous lirez le livre, vous ne pouvez pas comprendre. Le mystère de la Trinité Sainte sera-t-il pareillement toujours étranger à l'esprit humain? Ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus ne dit pas à ses disciples, vous ne pouvez pas comprendre. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le porter. Et pour l'instant, nous l'entendons comme... Avant la Pentecôte, c'est ce que nous avons fêté dimanche dernier. C'est-à-dire avant d'avoir reçu la plénitude de l'Esprit-Saint, avant d'avoir été confirmé, c'est-à-dire avant d'avoir eu la confirmation que Jésus est Seigneur, qu'il est l'égal du Père dans l'unité de l'Esprit. Jésus ne dit pas, vous ne pouvez pas comprendre. Jésus dit, pour l'instant, vous ne pouvez pas le porter. Et s'il fallait une image, on pourrait dire, comme on porte un enfant avant sa naissance, ou comme on porte sa croix jusqu'à sa mort. Et nous le savons très bien, c'est le chemin de notre vie, porter l'enfant qu'on a été, assumer l'enfant qu'on a été, porter l'enfant qu'on a été pour pouvoir naître réellement à la vie, et porter sa croix également pour accepter de mourir à soi-même, entrer dans le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité, c'est d'abord un mystère d'unité. Il suffit simplement de se poser la question. Quand est-ce que nous nous sentons, on va pas dire bien, mais quand est-ce que nous sentons réellement vivants? Vivants réellement. Eh bien, vous poserez la question, vous vérifiez, quand nous avons ce sentiment d'unité, d'unité avec soi-même, d'unité avec les autres, d'unité avec Dieu, unité avec soi-même, conscience tranquille, conscience apaisée, unité bien sûr avec les autres, un environnement harmonieux, des relations d'amour, d'amitié, unité surtout, réconciliée avec Dieu. Et quand nous traçons le signe de croix sur nous, pas uniquement à la messe, à différents moments de la journée, nous demandons au Seigneur de venir unifier notre vie. C'est ce que nous ressentons aujourd'hui, cet éparpillement, cette dispersion, cette façon de ne plus savoir qui nous sommes nous-mêmes. Il y a un psaume, le psaume 85, qui le dit de façon magnifique, « Unifie mon cœur. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour, toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix, unifie mon cœur pour qu'ils craignent ton nom. » Qu'ils craignent ton nom, c'est-à-dire, c'est ça, selon les dons de l'Esprit Saint qu'on a vu dimanche dernier, non seulement la prière, la piété, la crainte du Seigneur, toi qui es bon, le Dieu de bonté, toi qui es, nous disions par le passé, le bon Dieu. Vous vous souvenez, dans l'Évangile, il y a un homme qui vient voir Jésus et qui dit « Bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond « Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon ? Dieu seul est bon. Serait-ce que tu as reconnu
que je suis Dieu. Dieu est bon, il est infiniment bon, infiniment aimable. Le péché lui déplaît, c'est ce que nous disons. Alors, bon Dieu, ce n'est pas une interjection, c'est une appellation effectivement ancienne qui est davantage caractéristique de l'Ancien Testament, qui parle de sa bonté plus que de son amour, qui parle surtout de ses œuvres. Le bon Dieu, c'est le Dieu créateur. Et dans cette scène que j'évoquais de la rencontre avec l'homme riche, saint Matthieu lui rapporte différemment, il ne dit pas « bon maître », il dit « qu'est-ce que je dois faire de bon ?» Et la réponse de Jésus est la même. « Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon ?» Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus qui se fait en deux temps. Premier temps, observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et vous savez, cet homme, plein de bonne volonté, dit « mais j'ai fait tout ça ». Et Jésus l'aime. Regarde plein d'amour de Jésus sur lui. J'ai fait tout ça. Alors, deuxième temps, si tu veux être parfait, comme Dieu est parfait, alors sois généreux, donne, sans plus compter, donne tout ce que tu as, donne jusqu'à ta vie, suis-moi. Et voyez ces deux temps. Si tu veux entrer dans la vie, si tu veux être parfait, c'est une différence très classique que nous faisons dans l'Église entre les bienheureux et les saints. Ce n'est pas simplement un processus d'homologation. Nous croyons de ceux que nous appelons bienheureux, des premiers, ceux qui sont béatifiés, qu'ils sont entrés dans la vie éternelle. Tandis que les seconds, quand ils sont canonisés, nous croyons qu'ils sont unis à Dieu. Nous disons des premiers qu'ils voient Dieu face à face, qu'il contemple sa gloire, et des saints, qu'il participe à la vie de Dieu. C'est ça notre espérance. Suivant ces deux termes qui sont au début du livre de la Genèse, quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et un des premiers écrivains, auteurs spirituels ecclésiastiques, saint Grégoire de Nice, une très grande figure des premiers siècles, donnait cette explication, il disait « L'image, nous l'avons par création. La ressemblance, nous y aboutissons par notre choix. Faisons l'homme à notre image. Tu l'es par création. Mais c'est par ton vouloir que tu deviens la ressemblance. Le Créateur t'a donné l'une, il a laissé l'autre inachevée, afin que t'achevant toi-même, t'accomplissant dans ta vie, tu puisses être digne de la récompense éternelle. Toute personne, tout être humain est créé à l'image de Dieu. Et nous, par notre baptême, par ce signe de croix de la Sainte Trinité, nous sommes appelés à davantage, à la ressemblance divine, c'est-à-dire à aimer comme Dieu aime, comme Dieu nous a aimés. Je comprends que certains s'arrêtent à l'image. Que certains disent « Ouh, je me contente de commandements, de rites à observer. Je comprends qu'on ne se sente pas mûr, pas digne, pas capable de vivre comme Dieu, de vivre en Dieu. » Sainte Thérèse dit « De vivre d'amour, d'entrer dans cette communion d'amour du Père et du Fils dans l'Esprit. » Il y a ce passage dans le livre des Actes des Apôtres où saint Paul est à Athènes et rencontre l'élite intellectuelle de l'époque. Ça peut se passer à tout moment, la rencontre d'un homme de Dieu avec des intellectuels. Et saint Paul utilise une expression qu'ils connaissent, il la reprend et dit simplement, il a cette phrase inouïe, il dit « Nous sommes de la race de Dieu ». Nous sommes de la race de Dieu. Alors, le mot race, sali par l'histoire, nous ne l'employons plus. La traduction maintenant dit, nous sommes de sa descendance. Mais le propos était déjà inaudible à l'époque. C'est déjà ce que disait Jésus, c'est ce que révèle le Christ. Et les auditeurs de Jésus dans l'évangile disent, non. Non, nous on est de la descendance d'Abraham. On n'est pas du tout de la race de Dieu. On n'est pas de... Non, non, la descendance d'Abraham, il refuse ce que le Christ est venu rétablir, réparer. Ce lien filial, ce lien à la Trinité Sainte. C'est ce que nous avons vécu par la grâce de notre baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, image de Dieu, nous le sommes tous par notre naissance. Enfants de Dieu, nous le devenons vraiment par la communion d'amour. Et Jésus d'ailleurs répond à ses auditeurs, il dit, si vous étiez de la descendance d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous seriez prêt à quitter votre pays, votre parenté. Vous laisseriez en cas de dispute votre neveu Lot, c'est ce qui se passe. Vous laisseriez choisir la meilleure part. Vous accepteriez que Dieu vous demande de lui donner, de même de reprendre ce que vous avez de plus cher, Isaac, votre fils l'unique. Vous seriez prêt même à subir, endurer son courroux simplement pour intercéder pour vos frères. J'ai célébré ici, il n'y a pas longtemps, les obsèques d'un vieux professeur d'arts martiaux qui avait acquis suffisamment de sagesse au soir de sa vie pour pouvoir dire que sa discipline, ce n'était pas une technique de combat. C'était, disait-il, un art du mouvement. Il disait, il y a des façons de représenter le mouvement, comme la danse ou le cinéma. Il disait, notre discipline, c'est de le porter, de porter le mouvement à son accomplissement. Et il avait cette phrase extraordinaire, il disait, ça ouvre sur l'infini. Parce qu'il ne s'agit pas d'emmagasiner de la force, d'essayer de rechercher le maximum de puissance ou de pouvoir, mais de pénétrer toujours plus avant dans le mouvement de l'univers. C'est ça la beauté, la grandeur de la vie. Entrer toujours plus avant dans le mouvement de l'univers. Pour autant qu'on ne se trompe pas sur ce mouvement de l'univers. Nous avons du mal à penser Dieu parce que tantôt nous en avons une vision figée, inerte, d'un être absolu. Tantôt nous sommes effrayés par sa puissance, son bouillonnement infini. En oubliant la réalité que signifie la Trinité, le mouvement d'amour, ce mouvement perpétuel d'amour entre les personnes divines, si éternel et si grand qu'il s'ouvre à nous, qu'il s'ouvre dans l'histoire du salut, ce mouvement d'amour. Qu'est-ce qui est mort? C'est ce qui ne bouge plus? Ou c'est ce qui n'aime plus. Et ce vieux maître plein de sagesse qui citait toutes sortes d'auteurs anciens, Montaigne parce que c'était un professeur, Héraclite, il citait également Bergson qui a cette phrase extrêmement forte qui dit que toute chose manifeste dans le mouvement que sa forme enregistre la générosité infinie d'un principe qui se donne. Voilà peut-être une parfaite définition de la Trinité Sainte. La générosité infinie d'un principe qui se donne.